ce 1er septembre 2023 rentre en vigueur.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Durant la nouvelle réforme des retraites, et le début des rencontres entre le patronat et les syndicats sur l'avenir des retraites complémentaires à Gircq-Arco. Suite à plusieurs mois de lutte contre cette réforme et de mobilisation, quelle suite donner à ce mouvement où les directions syndicales ont mis des freins? Après ce mouvement en demi-teinte, le collectif Ne tournons pas la page entend continuer à porter cette lutte. Ainsi, pour faire le point sur la campagne menée par le collectif et préparer la suite, une réunion publique se tenait ce 1er septembre 2023 dans les locaux de l'EDMP à Paris, avec le collectif Émancipation. Et c'est une partie de cette rencontre que nous vous proposons dans l'émission de ce jour. À bonne écoute.
Début de la réunion de ce 1er septembre de la campagne Ne tournons pas la page, sur la question des retraites et le rôle des directions syndicales. Et donc moi je suis Loïc Geffrotin, je suis militant à la CGT Éducation 78, donc dans les Yvelines, et je suis un des animateurs de cette campagne. Donc oui, on va faire un petit tour de table histoire de faire un peu plus ample connaissance, puis après je vous proposerai de faire un petit rapport introductif. Est-ce que tu veux te présenter?
Alors, moi, je suis Edwige, je suis à la retraite et je suis électro-libre, je suis partout, quoi, dans toutes les luttes. Pas particulièrement syndicale, je soutiens les syndicalistes qui luttent, qui font la grève, tout cela. Et j'ai envie de les niquer aussi, moi, les organisations syndicales. Hein. La binée, elle va pas nous la faire. Hein. On connaît déjà. Hein. Voilà. Dominique, retraitée.
Oui, droit au logement.
Ici, elle est drôle, la retraitée. Situation du logement est désastreuse. On ne sait pas si elle va s'améliorer, enfin pas pour l'instant en tout cas. C'est un très très grave sujet.
Joël, est-ce que tu veux te présenter? Allez.
Moi je suis Joël de l'émission L'actualité des luttes sur l'antenne de Fréquence Paris Pluriel.
Ensuite, on a quoi comme sur le table? Olivier, est-ce que tu peux te présenter?
Ben, moi je suis... Olivier, de l'émancipation, un peu comme Edwige, sur toutes les luttes auto-organisées depuis bien longtemps.
C'est bien.
Je suis le de la FSU, ce qui me permet d'avoir quelques informations en avant-première.
Ok, merci Olivier. Graziella, est-ce que tu veux nous dire un mot pour te présenter?
Voilà, je m'appelle Graziella, donc j'ai été gréviste et manifestante contre la réforme des retraites. Je suis toujours en activité, je travaille à la Caisse centrale d'activité sociale, c'est-à-dire c'est le CE des salariés de l'énergie et du gaz. Voilà.
Ok. Ensuite, Nico.
Salut. Bah ouais, moi c'est Nico. Je suis un pote de Dany. En fait, on s'est rencontrés pour les Gilets jaunes et puis le mouvement contre la première réforme des retraites là. Mais je me suis barré de l'Île-de-France là depuis quelques temps. Et je suis vers Frontignan, c'est entre Sète et Montpellier. Je m'organise avec une coopérative intégrale où on essaye de sortir du capitalisme comme on peut, quoi, à base d'autonomie. Bon, ben, on a fait une petite lutte à Sète. Du coup, on s'est frotté au syndicat liste de base et puis au syndicat liste de centrale. Du coup, dans notre groupe, quoi, il y a des gens syndiqués puis d'autres qui ne le sont pas. Bon, je suis plus là en spectateur, quoi, pour voir ce qui se dit, quoi. Et puis, ça peut éclairer les discussions qu'on a ici entre syndiqués et non syndiqués, quoi.
Effectivement, la question de la bureaucratie syndicale, des directions syndicales, ça peut sembler un peu abstrait. Donc, on a quelques témoignages de terrain pour un peu incarner cette problématique. C'est très bien, quoi. Fabio.
Ben moi, c'est Fabio. Je travaille à la Tirue d'ici les Moulineaux. Donc, j'étais là pendant les piquets de grève, dans les premiers piquets de grève pendant la lutte justement contre la réforme des retraites.
Alors, Isabelle, donc ancienne prof de lycée pro à Neuilly-sur-Marne dans le 93. Je voulais dire que j'étais aussi syndiquée à la FSU, donc au SNUEP, ce qui correspond à la FSU pour l'enseignement pro. Sans en être particulièrement fière, et donc membre d'émancipation aussi, voilà.
Et des gilets jaunes, nous aussi, on n'a pas dit.
Ah ben voilà.
On est gilets jaunes.
Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est cette une du Parisien extrêmement préoccupante. Alors, j'arriverai pas à la dire. Retraite, ce qui change aujourd'hui. Donc, effectivement, on est le 1er septembre et c'est le jour d'entrée en application de la loi Borne contre laquelle on s'est battu. La loi s'applique aujourd'hui. Bon, en fait, j'aurais aimé qu'on se retrouve en manifestation aujourd'hui ou dans un rassemblement. Malheureusement, effectivement, l'intersyndicale n'a appelé à ni l'un ni l'autre. Donc, du coup, l'intersyndicale, après le 6 juin, n'a pas appelé à acter, à faire un truc ce 1er septembre, quoi. Donc, nous, on s'est dit que, bon, avec nos petits moyens, on allait quand même marquer le coup et faire au moins une réunion. C'est quand même le minimum qu'on puisse faire aujourd'hui, quoi. Nous nous battons pour le droit à la retraite par répartition. Donc, c'est le fait que les actifs d'aujourd'hui financent avec leurs cotisations les retraités d'aujourd'hui. Et par ce biais aussi s'ouvrent des droits, quoi. On se bat pour empêcher le passage de 62 à 64 ans comme âge de départ à la retraite. Et ce qui est intéressant, c'est que s'ouvre mardi une autre bataille des retraites, qui est la bataille des retraites complémentaires. Alors c'est un peu plus obscur pour moi, mais donc c'est les négociations sur l'AGIRC et l'ARCO. Mmh. Donc ce sont des retraites complémentaires obligatoires qui concernent tous les travailleurs du privé. Donc, pour les travailleurs du privé, quand même, la GIRC-ARCO, ça correspond entre 25 et 50% des sommes de leur pension. Donc, c'est quand même un gros paquet. Et ce qui affole le patronat, c'est que dans les caisses de la GIRC-ARCO, il y a aujourd'hui 69 milliards d'euros qui n'ont pas été dépensés. Donc, c'est une somme énorme, parce que vous vous souvenez qu'on a fait une réforme des retraites pour 12 milliards, quoi.
Voilà,
donc, bon, le patronat dit, bon, bah, comme il y a beaucoup d'argent de côté, ce qui serait bien, c'est qu'on baisse nos cotisations, et qu'en plus, on puisse taper dans cette, soit on tape dans les 69 milliards, soit on baisse leur cotisation patronale, quoi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, du coup, l'intersyndical, là, à partir de mardi, donc tout le mois de septembre, enfin, pendant, ils vont voir 5 fois, de septembre à octobre, pour discuter de qu'est-ce qu'on fait de ces 69 milliards, quoi. Donc, pareil, c'est très curieux. Donc, il va y avoir des négociations. Et, à nouveau, donc, c'est, entre, donc, 5 personnes syndicalistes d'un côté, 3 patrons de l'autre. Et donc, ils se réunissent dans une salle. Et, les syndicats pensent avoir le rapport de force pour, peser en leur sens. J'ai pas eu le temps de trop creuser qui dit quoi. J'ai vu que la CFDT voulait utiliser cet argent pour financer France Travail, la réforme de Pôle Emploi. Voilà, ça c'est la position de Marie-Lise Léon, quoi. Donc voilà, donc on aura l'occasion d'en discuter lors d'une prochaine séance, la question de la GIRC-ARCO et des négociations en cours. La question des retraites, ça reste une question d'actualité. pour différentes raisons. La première, c'est que le Conseil d'orientation des retraites a redit début juin ou mi-juin que la réforme actuelle n'était pas suffisante pour équilibrer les comptes, parce que les comptes sont toujours en déséquilibre selon le corps. Donc on comprend qu'il va y avoir prochainement une autre réforme qui va permettre de, là ce coup-ci, vraiment pour de bon équilibrer les comptes des caisses de retraite. Donc il y a eu ça. Le MEDEF, qui est un MEDEF de combat, a fait campagne pour qu'il y ait une dose de capitalisation qui entre dans le système par répartition, avec à terme que tout cet argent des cotisations qui actuellement va directement de la poche du travailleur actif au travailleur retraité, il aille sur le marché, donc qui fasse de l'argent pour le secteur de l'assurance. C'est quand même 300 milliards d'euros par an, c'est des sommes gigantesques, c'est plus que le budget de l'État. Et Emmanuel Macron, dans son interview Fleuve au journal Le Point, a redit qu'il n'oubliait pas qu'il souhaitait faire aussi la réforme des retraites par points. Donc voilà, donc il y a quand même beaucoup de faisceaux d'indices qui nous disent que, plus la question de la GRCARCO, donc tout ça fait que il y a une actualité brûlante aujourd'hui et tout le mois de septembre sur les retraites et les retraites complémentaires. Et quoi qu'il se passe au cours de ce mois de septembre et d'octobre, ensuite, de toute façon, il va y avoir effectivement il y aura de nouveau des attaques sur la question des retraites, quoi. Donc les retraites restent une question d'actualité. Un mot sur la question du financement. Le système de retraite par répartition était bénéficiaire en 2021, il était bénéficiaire en 2022. Donc en fait, on se rend compte que c'est un système qui fonctionne très bien, malgré le fait que chaque année, le patronat a des baisses de cotisations, je crois, de 50 milliards ou 100 milliards, des sommes gigantesques, quoi. Donc, et si jamais le système n'était pas à l'équilibre, on pourrait, par exemple, payer les femmes à hauteur des hommes, ça réglerait le problème, ou si on déclarait les travailleurs sans papier, et si on les régularisait, il n'y aurait plus de problème non plus de financement, quoi. Donc on voit effectivement que, en fait, il n'y a pas de problème des retraites, quoi. Donc le problème, il est ailleurs. Tu veux dire un truc rapide?
N'oublions pas aussi, ils refusent systématiquement des augmentations de salaire au profit de primes qui sont défiscalisées, et que donc à chaque fois, rien ne rentre. Justement, ça contribue largement à appauvrir les caisses de retraite. Voilà.
On a un système organisé pour casser le système, et malgré, depuis... le rapport de Rocard en 93, je crois, donc ça fait maintenant une trentaine d'années, malgré les coups successifs, le système, il tient encore, quoi. Il tient parce qu'il fonctionne bien, et il tient parce qu'on se bat pour le défendre, quoi. Alors, si le système, il est à l'équilibre, pourquoi est-ce que, mandat après mandat, on a effectivement des attaques contre le système de retraite par répartition? Et ben, quand on repousse l'âge de départ, c'est pas de nous exploiter plus longtemps. Donc ça, c'est bien pour le patronat. Et donc ça rapporte du profit au... ça permet d'augmenter les profits du capital sur notre travail, ok. Et en plus, tout le temps où nous on travaille, c'est du temps où on touche pas nos cotisations, enfin où les cotisations, en tout cas les cotisations des actifs qui ont travaillé, quoi. Plus longtemps on travaille, plus en fait le travail il est usant. C'est ce qu'ils expliquaient là. On nous vole nos deux meilleures années de retraite, mais ce sont les deux années pires pour le boulot, quoi. Donc c'est vraiment un moment charnière. Et là, enfin, on a vu dans d'autres pays, hein, ils repoussent à 67, etc., quoi. Tant que le travailleur travaille, on paye pas de cotisations, ça c'est bien. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, pour le privé, à 45 ans, t'es vieux. Donc effectivement, je crois que c'était la part des 50, à partir de 55 ans, la moitié des plus de 55 ans qui sont en âge de travailler sont au chômage, quoi. Donc là aussi, ça fait des économies sur nos cotisations. Et enfin, comme on intègre qu'on n'aura pas de retraite à taux plein, on est poussé à mettre de l'argent de côté pour ceux qui peuvent. Donc effectivement, on passe à la capitalisation sans le dire. Bon, le problème, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à finir à boucler leur fin de mois. Donc, je vois pas comment ils vont pouvoir mettre l'argent de côté, tous ces gens-là, quoi. Mais bon, ça, le capitalisme, il s'en fout, quoi. Vous vous souvenez qu'à la base, Macron a fait campagne, à l'entre-deux tours, là, sur la question de la retraite à 65 ans. Bon, finalement, il a plutôt tapé sur 64. Et malgré tout, cette réforme est un recul de société, quoi. Alors, ça a donné lieu à une lutte qui était de très grande ampleur. Je ne vais pas revenir, enfin, peut-être qu'on en rediscutera après sur la chronologie de ces 13 journées de mobilisation, plus la 14e peut-être, on va dire que c'est la 14e, celle du 13 octobre. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, parce que je pense que vous connaissez très bien cette histoire de... Bah, effectivement, on a vu qu'à chaque fois qu'il fallait accélérer la cadence, l'intersyndicale a ralenti, quand il fallait ralentir, elle a accéléré, etc. Donc bref, à la fin, on a démobilisé les travailleurs. Moi, ce qui m'intéresse, sur quoi je voudrais appuyer, c'est est-ce que la grève, ça sert à quelque chose? Et est-ce qu'on a eu, il y a eu des effets positifs à cette grève dans l'immédiateté du mois de mars et d'avril, quoi. Vous vous souvenez peut-être que les agences Bloomberg, Moody's et Fitch avaient quand même dit, bon, Bloomberg a dit que la politique de Macron, elle est pas pro-business, justement, son entêtement va nuire aux affaires économiques du patronat français. Moody's, après l'utilisation du 49.3, c'est une agence de notation, avait dit que ça allait compliquer les tentatives futures de légiférer et mettre en œuvre des réformes macroéconomiques structurelles pendant le reste du mandat. Donc en gros, bah, effectivement, Macron pourra plus réformer après ça. Et Fitch dit pareil, les grèves risquent d'empêcher la bonne tenue des réformes. Donc bon, ça c'est plutôt des agences américaines, donc faut, bon, ça peut être une façon aussi de faire chier les capitalistes français à l'avantage des capitalistes américains. On entend quand même que Macron, ce qu'il fait, c'est qu'à un moment donné où ça devient pas rentable, qu'il y ait un mois et demi de grève larvée. Toujours cette idée de Macron, est-ce qu'il sera capable de faire des réformes ensuite, quoi. Donc ça, c'est ce que dit le patronat, on va dire, américain, quoi. Alors, si on revient au niveau de la France, les bonnes nouvelles, c'est quoi? C'est que moi, je renotais le 6 avril, c'est la 11e journée de mobilisation. Et on a déjà un mois de lutte dans les pattes. C'est les vacances, il y a de la répression, et pourtant, il y a encore 2 millions de manifestants. Donc c'est quand même pas mal de se dire, on n'a jamais eu le nombre de grévistes, mais au moins on a le nombre de manifestants, quoi. Au 8 avril, on a eu l'annulation de la visite du roi d'Angleterre, Macron n'est pas venu à un match au Stade de France, la loi Darmanin a été reportée, borne précise parce qu'on n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale, report du SNU obligatoire, 37 euros pour les étudiants boursiers. Donc, vous voyez, il protège les têtes couronnées. Ils ne veulent pas ouvrir de nouveaux fronts. Ils ne disent pas à faire la réforme des retraites et la loi Darmanin en même temps, ça va faire trop, donc on évite. On essaie de donner un peu des cacahuètes aux étudiants. 12 avril, Fabius n'accompagne pas Macron en Chine. Parce que Fabius, il était en mode conseil constitutionnel. Et donc, du coup, il était rattaché à la question de la réforme des retraites. Borne ne va pas au Canada. On abandonne une partie de la réforme du chômage. Il y a une conférence de BlackRock qui est annulée à Dauphine. Le 13 avril, c'est la 12e journée de mobilisation. Là aussi, c'est pendant les vacances. Il y a toujours autant de répression. Et on est encore 1,5 million de manifestants, quoi. Dont 400 000 à Paris. Et en fait, 400 000 à Paris, c'est à peu près un chiffre stable tout au long du conflit. Donc en fait, il n'y a pas eu de baisse de la mobilisation des travailleurs, quoi. Sur les journées d'action, les gens étaient là, plusieurs millions à chaque fois et compagnie, quoi. Visite du président algérien annulée. En tout, avec les casserolades, on a annulé une cinquantaine de visites de ministres par notre seule présence et nos menaces de nos bruits de casseroles. Le 1er mai, moi, mon analyse, c'est que partout en France, au niveau local, tous les chiffres étaient en hausse. Ils disent à tel endroit, manifestation historique depuis le début du mouvement, voire depuis 40 ans. Quand tu regardes au niveau local, tout le monde te dit c'est historique, etc. Et l'intersyndicale dit on était 2,3 millions, ce qui est un chiffre assez nul. Moi, j'ai plutôt l'impression, en fait, les chiffres, c'était plutôt 4 millions de manifestants le 1er mai, quoi. Donc, j'ai l'impression même que, voilà, l'intersyndicale, parfois, elle a baissé les chiffres pour qu'on perde confiance dans nos forces, quoi. Si on fait un peu le mois de mai, quelques éléments. Mobilisation lycéenne à Paris le 16 mai. Le 23 mai à Paris, action des Verts Baudets, des cheminots, des travailleurs du social et de la santé. Grève et manif pour les salaires à Disneyland. Le même jour, manif à Lille et à Rouen contre la réforme des retraites. Mercredi 24 mai, action de la CGT Paris contre les galeries Lafayette, contre la loi Borne. Donc voilà. Donc vous voyez, donc ça c'était, il y avait plus de grève reconductible, etc. Mais il y a quand même ce truc de cette émulsion, le nombre était là, les gens étaient assez velléitaires. Donc il y a vraiment, les travailleurs sont vraiment mobilisés. Si on revient à qu'est-ce qu'en pense le patronat français, Geoffroy Roux de Bézieux, celui qui était en tout cas le chef du MEDEF au moment du conflit, il a quand même sorti « Les 100 jours, je n'y crois pas. On est dans une impasse politique assez forte, puisqu'il, Macron, n'a pas de majorité, quoi. » Ça, c'est Bézieux le 26 avril. Donc quand même que le patronat te dise « En fait, là, Macron, il est assez mal engagé pour la suite. » Ça témoigne qu'effectivement, enfin, tout le monde est, en fait, est d'accord sur l'analyse que Macron, là, aujourd'hui, il est quand même dans une impasse, quoi. Donc effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que Macron est dans l'incapacité de passer facilement de nouvelles lois, un an à peine après sa réélection. Donc il y a une usure énorme du pouvoir, et ça c'est extrêmement bon pour nous. Là-dedans, effectivement, le rôle de l'intersyndicale, c'est assez incroyable. Vendredi, avec Daniel et d'autres camarades, on est allé à l'université d'été des mouvements sociaux et solidaires, à Bobigny. Il y avait un meeting de l'intersyndicale, donc Sophie Binet de la CGT, Benoît Test de la FSU, une troisième camarade de solidaires, Muriel Gilbert, Et Benoît Test, je cite, donc il nous rappelle que le conflit des retraites est une lutte entre le capital et le travail, que les appétits du capital allaient donner lieu à d'autres attaques et d'autres débats. Donc bon, je suis d'accord sur le constat qu'il y aura d'autres attaques, c'est ce que je disais en introduction. Par contre, tu considères que c'est une question de débat finalement tout ça, donc il va y avoir des débats d'idées. Mais il n'y a pas de conséquences concrètes pour nos vies, quoi. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Les journées de grève saute-mouton sont, je cite, de grands moments où tout le monde peut venir. L'intersyndicale a pu respecter l'ensemble du monde du travail. Fin de citation. Et donc, à quoi ça sert ces 13 journées de mobilisation ? Ça sert à ce que les gens puissent se rencontrer et être contents. Et effectivement, c'est une sorte de... Et on se compte, parce qu'on revoit les copains. Et c'est incroyable. Donc, on a vraiment l'impression que, effectivement, c'est une sorte de sortie scolaire consensuelle. Et on fait ça de temps en temps. On a droit à la bagarre ou en face, ils ont droit de nous taper dessus, quoi. Et donc c'est ça en fait la conception. On fait des sorties scolaires de temps en temps, quoi. Et c'est vraiment l'idée depuis le début qu'il faut que les Français prouvent à nouveau pour la 8e fois, 10e fois qu'ils sont contre la réforme des retraites. Donc on fait des journées de grève et de manifs pour montrer qu'on n'est pas content. Sauf que c'est pas ça le. Enfin, et Macron, il sait très bien qu'on est contre sa réforme. Les sondages le disent. On a fait une première manifestation le 19 janvier, 2 millions. On n'a jamais vu un conflit qui commençait aussi fort. Donc, je pense qu'on a quand même démontré 10 fois qu'on était contre. Donc, oui, donc il y a bien un problème, c'est que l'intersyndicale ne veut pas avoir un plan de bataille pour dire on commence la grève à telle date et tant que Macron n'a pas retiré son projet, on continue, on ne reprend pas le travail. Donc ce ne sont pas du tout là-dessus nos camarades à la direction des syndicats, mais c'est bien la politique de la direction des syndicats, quoi. Sophie Binet, elle a élaboré tout un discours extrêmement argumenté pour dire que, je cite, « l'intersyndicale a fait un sans-faute ». Non, c'est pas une blague, c'est une citation, d'accord. Et donc, s'il y a un problème, c'est parce que, un, les travailleurs sont pas assez combatifs. Deux, les jeunes sont pas assez combatifs, les jeunes scolarisés. Trois, le RN existe. Test, il nous dit qu'effectivement, les journées de mobilisation, c'est des journées de sortie scolaire pour se retrouver entre copains. Donc, c'est pas du tout des journées de lutte. Donc, comme si on avait besoin à chaque fois de reprouver qu'on n'était pas content. Donc, ça serait ça le but des journées d'action et de grève. Alors, moi, ce que je dis, non, c'est qu'au contraire, les journées de grève, ça doit être des journées de combat, mais dans un cadre, un plan de bataille pour dire on va gagner à condition qu'on arrête le travail tous ensemble au même moment. Et tant que Macron n'a pas cédé, on ne reprend pas le boulot, quoi. C'est toujours pareil, si tu annonces à l'avance, mais même s'ils avaient annoncé intersyndical, on va faire des journées de grève pendant janvier à juin qu'ils avaient annoncé d'avance. Pareil, ça a fait flop, parce que le patronat, il s'organise, il dit, bon, il faut tenir tel jour, ça va être dur, mais on serre les dents, etc. Si on dit, par contre, à partir de tel jour, on se met en grève et on reprend pas le boulot tant qu'il lâche pas, là, il y a un suspense qui fout la chocotte à Macron, quoi. Bon, malgré le calendrier pourri, les travailleurs se sont battus, et effectivement, il y a eu une phase, là, autour de bout de 2 semaines de conflit en mars, où là, on sentait que Macron était quand même bien usé. Et donc oui, donc vendredi, Sophie Binet, elle est incroyable cette dirigeante, puisqu'elle a tout un discours extrêmement élaboré pour dire que l'intersyndicale, je cite, a fait un sans faute. Donc du coup, Macron a tête dure, ok, il faut le dire, mais c'est quoi les conséquences de ça ? Les travailleurs sont pas assez mobilisés, la jeunesse scolarisée est pas assez mobilisée, et enfin, tenez-vous bien, le RN, du fait de sa seule existence, a entravé la lutte. Démerdez-vous avec ça, quoi. Donc, elle balance des trucs comme ça, Sophie Binet, et en disant, voilà, le Front National existe, donc du coup, il a un poids, et donc on n'y arrive pas, etc., quoi. Donc, c'est
fondamentalement le fait qu'il n'apparaît pas qu'il y ait une alternative à gauche,
oui,
qui l'emporte dans le cadre de grandes grèves, puisque la gauche est divisée et le RN fait qu'il y a une tripartition de.
Ouais.
Voilà. Tout ça fait que.
On peut pas gagner,
ça, ça ne motiverait pas les gens à être suffisamment déterminés pour se battre.
Donc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce discours qui dit finalement, c'est la faute des travailleurs. Les travailleurs sont pas assez bien pour l'intersyndicale, mais si les travailleurs étaient plus combatifs, on aurait plus de remontées et on se serait mis au diapason des masses. Et alors, ça, c'est totalement faux. Et donc, je vous donne un exemple qui, moi, en tant qu'enseignant, m'a beaucoup marqué. Donc, vous avez peut-être d'autres exemples du même acabit. Vous avez dû entendre parler là, ces jours-ci, que le bac, maintenant, il y a des épreuves en mars. Et du coup, là, en mars de cette année, il y avait un appel des syndicats d'enseignants, CGT, FO, Sud, et il m'en manque un, la FSU, disant effectivement, lundi, on se fout en grève le jour du bac, 20 mars. Et donc, les médias commencent à reprendre le truc, qu'est-ce qui se passe ce week-end? Vous avez Philippe Martinez de la CGT et Berger de la CFT qui dit non, nous invitons les profs à ne pas faire grève le jour du bac, il faut pas déranger les élèves et se mettre le public à dos, quoi. Alors qu'en fait, donc on voit bien que là, les deux têtes de l'intersyndicale ont pesé tout leur poids pour dissuader les travailleurs de se mettre en grève quand même. Et en fait, ça, c'est ce qui était le plus visible, mais on a tous vu sur nos piquets de grève, dans nos luttes, dans les luttes qu'on a aidées, à chaque fois, des représentants intersyndicales de l'échelon départemental, local, etc., venir peser en négatif pour péter une assemblée générale, pas distribuer le tract, pas l'imprimer. Donc à tous les échelles, il y a eu effectivement des entraves au fait que les travailleurs puissent s'organiser et lutter à mort contre Macron, quoi. Donc, effectivement, le discours qui dit « c'est de la faute des travailleurs », oui, mais les travailleurs n'étaient pas assez mobilisés. Ça, c'est un constat, mais qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas été assez mobilisés? Je pense que si, au contraire, on avait une direction qui avait dit « écoutez, à partir de telle date, nous, on appelle tous les Français à se mettre en grève. Nous, les syndicats, on a des millions qui dorment dans dans nos caisses. On met tout l'argent sur la table. Et donc, on appelle les Français à s'organiser pour tenir dans la durée. On a un plan de bataille clair et on rompt avec 20 ans de lutte à la con et 20 ans de journée saute-mouton. Là, je pense que les travailleurs auraient été beaucoup plus partants pour aller au combat. Là, c'est encore un conflit à la noix, encore la même stratégie. Je vais pas encore perdre des journées de travail pour les beaux yeux intersyndicales, quoi. Dans la campagne, on ne tourne pas la page. C'est comme ça qu'on interprète la situation, quoi. D'autant plus, c'est criminel que cette année, ils ont dit que vraiment, il y a eu beaucoup de primo-grévistes et primo-manifestants. Et donc, on a en face des gens qui ont 20 ans, 30 ans de métier. Et donc, c'est à cause des primo-manifestants que les luttes gagnent pas. C'est pas à cause des vieux militants. Non, c'est aux personnes qui se disent militantes, engagées, qui en plus sont permanents. C'est eux les responsables, donc, qui prennent leurs responsabilités, quoi. Cette adresse aux directions, nous, on l'a publiée fin mai, publiquement. Et donc, le 6 juin, dans le track de l'intersyndicale, ils disent, nous ne tournons pas la page. Mais, effectivement, pas de date pour juin, juillet, septembre, etc., quoi. Et donc l'intersyndicale, quand même, donc elle enterre la lutte pour les retraites. Le 15 et 16 mai ou le 16 et 17 mai, ils rencontrent chacun Borne. Puis le 5 juin, tous, ils rencontrent le patronat. Ils se mettent d'accord sur un agenda social bipartite. Donc agenda social, c'est on se met d'accord pour discuter de questions qui intéressent les travailleurs pour leur retirer des droits. Donc c'est ça l'agenda social. Le 6 juin, donc il y a eu la manifestation, la dernière manifestation. Et donc pourquoi est-ce qu'on a fait une manif le 6 juin et grève le 6 juin? Parce que le 8 juin, il devait y avoir le fameux journée de débat de Liotte qui remettait sur la table la question des retraites. Donc ça aussi, un des problèmes, c'est que longtemps, les syndicats sont calés sur l'agenda parlementaire. Donc on fait des journées par ronde de grève 2 jours avant, mais le 8 juin, rien, en soutien, entre guillemets, à Liotte, quoi. Donc que dalle le 8 juin. Vous vous souvenez que le jeune Naël, le 27 juin, est assassiné par la police. Donc il n'y a pas de rapport avec les retraites, mais quand même, donc il y a un soulèvement de la jeunesse partout en France, 500 villes, et pareil, les syndicats n'ont pas appelé à converger avec les jeunes émeutiers, quoi. Donc là aussi, on les laisse se démerder tout seuls, aller crever les jeunes, quoi. Donc pas de convergence à ce moment-là. Le 7 juillet, élection du nouveau président du MEDEF, bah rien. Et nous, avec nos petits bras, on a essayé de faire un happening, ça n'a pas marché, mais bon, on a tenté, quoi. Mais donc bref, ils ne sont pas allés faire chier le MEDEF le 7 juillet. Le 12 juillet, il y a une rencontre entre les syndicats, le patronat et l'État. Tout le monde en ressort très satisfait de ce truc-là. Et ce qui est criminel, c'est que cette rencontre du 12 juillet aurait dû permettre normalement à Macron de faire des annonces le 14 juillet. Bon, Macron est tellement en mauvaise posture qu'en fait, le 14 juillet, il n'y a pas eu d'annonce de la part de Macron. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, 14 juillet, pareil, même pas d'appel pour clôturer les 100 jours à manifester, quoi. D'accord? Donc, nous, on a manifesté, du coup, avec les collectifs sans papiers qui, eux, pour le coup, se sont emparés le 14 juillet, quoi. Donc, vous voyez, quand même, ça fait quand même beaucoup quand ils nous disent qu'on fait de notre mieux, blablabla. Bah, à la fin, il y avait plein de dates qui étaient intéressantes et symboliques, au moins. Et même pour faire des journées d'action en plus, ils n'ont pas fait, quoi. Même pas l'appel à rassemblement. Donc, pourtant, il y a des choses à faire sur ce créneau-là, quoi. Et donc, l'analyse, c'est qu'effectivement, oui, Macron, il a la tête dure, mais faut prendre la mesure, donc faut taper plus dur sur lui. Et ce qu'on analyse, c'est qu'aujourd'hui, Macron, il tient avec la répression policière, évidemment. Mais il tient aussi grâce aux organisations syndicales qui lui permettent d'avoir des propositions à faire. Parce que faut quand même avoir en tête que là, tout le monde le dit, Macron a plus de majorité, c'est très compliqué pour lui à l'Assemblée nationale, donc il peut utiliser soit le 49-3, soit utiliser des ordonnances, soit utiliser un système de référendum, ou bien, si les syndicats et le patronat se mettent d'accord sur des accords entre eux, ça peut faire office de loi. Donc, une des façons pour Macron de faire passer des lois, c'est de faire en sorte que les syndicats et le patronat se mettent d'accord sur des trucs. si nos directions syndicales boycottaient les rencontres avec le patronat, effectivement, il n'y aurait vraiment aucune loi qui pourrait sortir en France. Mais non, les directions rencontrent le patronat, quoi. Donc vraiment, quand je vous dis que les directions nationales des syndicats sont permettent à Macron de tenir, bah parce qu'il les appelle pas à la grève, parce qu'il lui file des lois annoncées, etc. quoi. Donc c'est un scandale. Et donc vendredi, en exclusivité toujours, on nous dit que la prochaine date de mobilisation et d'action, ça sera un vendredi 13 octobre. Sur plein de sujets, donc sur les retraites mais sans demander sur l'abrogation, sur l'égalité salariale femmes-hommes, sur l'austérité, sur le climat, sur tout et rien quoi. Et donc c'est sur tout et rien et c'est pas un appel à la grève, c'est mobilisation et action. Pourquoi est-ce qu'on fait ça un vendredi 13? Parce que ça correspond à une date, ça porte bonheur, nous dit Joël dans le micro, possible, mais parce qu'en fait ça correspond à une date de la Confédération européenne des syndicats qu'on a pu nous analyser lors des pique-niques qu'on a fait cet été. Et cette Confédération européenne des syndicats n'est pas du tout une confédération pour unir les syndicats dans la lutte, c'est vraiment un rouage de l'Union européenne pour écrire des directives qui vont ensuite détruire nos acquis sociaux, quoi. Donc en fait c'est vraiment une date pourrie de A à Z. Néanmoins, peut-être que si on a un septembre-octobre qui est chaud, ça donnera un autre contenu à cette date du 13 octobre, quoi. Pour l'instant, c'est une date pourrie, quoi. On s'est constitué autour de l'incinérateur d'Issy les Moulineaux. Donc c'est parce qu'il y avait une grève dure qui se menait sur les incinérateurs parisiens, entre autres, avec la guerre des poubelles, avec une pression médiatique, politique, policière énorme sur les incinérateurs. Donc il y a eu beaucoup de soutiens qui sont venus sur les incinérateurs, notamment à Issy les Moulineaux dans les Hauts-de-Seine. Donc nous, les soutiens, on s'est rencontrés là-dessus. On a vu à l'œuvre les bureaucraties syndicales au plus près du terrain. Donc on s'y est frotté. Et on les a vus au niveau national aussi, et on s'est dit, bah, effectivement, il faut que le combat continue. Donc on lance cet appel de pas tourner la page, qui est adressé à toutes les directions, sans exclusivité, parce que toutes ont leur responsabilité, quoi. C'est pas la faute de la CFDT. Là, vraiment, on voit que toutes les directions de Solidaire, de la FSU, de la CGT, ils sont tous sur une position, c'est tous la CFDT, en fait, ces gens-là, quoi. Donc on a fait connaître un maximum cet appel. Donc aujourd'hui, on en est à 500 signataires, donc 250 syndicalistes, 250 activistes. On est allé un peu cet été le faire connaître dans le Larzac, dans le cadre des résistantes qui étaient organisées par la Confédération paysanne et les faucheurs d'OGM. On est allé effectivement à l'université d'été des mouvements sociaux. On est dans les manifestations sans papiers. Donc on a fait tout ça. Donc ça c'est que l'activité de l'été. Cet été on a maintenu la flamme en faisant tous les dimanches. Donc on a fait 12 dimanches de formation sur les questions syndicales. Donc l'intersyndicale a appelé à 13 journées de mobilisation. Nous on a fait 12 pique-niques cet été. On essaie d'essayer de concurrencer leur calendrier. Donc du coup, ça nous permet de nous former sur les questions aussi diverses que, effectivement, la Confédération européenne des syndicats, sur mai 68 et la grève générale, sur les LIP, sur les révolutions arabes et le rôle de la grève générale. Donc voilà, on s'est fait le syndicalisme lycéen, on est revenu sur les retraites par répartition, leur histoire. Enfin, on a fait 12 sujets différents. On a fait une action pour les élections au MEDEF aussi, c'était un petit happening. Voilà, donc on a fait beaucoup de choses. On a écrit à 1700 structures syndicales aussi. On a passé du temps à collecter les adresses. Donc on essaie de les tenir informées régulièrement. Donc voilà, on a tout un boulot de faire connaître cette campagne. Et donc, ça marche, puisque ce qui est intéressant, c'est que par exemple, le Benoît Teste de la FSU, donc le dirigeant national, nous a dit effectivement, en tête à tête, qu'effectivement, il connaissait notre campagne. Et ça, c'est grâce au boulot notamment d'Olivier, qui, au niveau de la direction de la FSU, fait connaître cette campagne, on tourne pas la page, quoi. Mais Duteuil, qu'on a vu au Larzac, le dirigeant de la Solidaire, dit « Oui, on vous connaît ». Donc on est connu des directions intermédiaires, mais au niveau national aussi, ils nous connaissent, ils nous identifient, ils nous méprisent pour l'instant, mais ça ne va pas durer éternellement, quoi.
Yes, sir. Catégorique.
On est mal élevé, nous, hein.
Rebel Diaz. Mal élevé.
C'est la résistance mondiale.
Direct action, belle fête à Midashin, King Nintro. Eskalation, Krieg im Palast, mit Revolution.
Zerbrechen den Thron, verbreiten die Message mit dem Megafon.
Keine Nation, L'Anarchia, letzte Station.
Das System hat versagt, Sand im Getriebe, wir legen es lahm.
Wir geben nicht nach, uns hält keine Kette, kein Knebelvertrag.
Gegen den Staat, sterben in Freiheit statt Leben im Saal.
Rebellientag, ich greife zum Mic und ich bitte dir das Saal.
Tausend Stimmen, ein Protest, ein Traum, ein Ziel,
weltweit vernetzt, die Faustgewalt bereit zu kämpfen. Résistance. Wir fighten jetzt.
On a trop hésité, maintenant faut s'opposer contre l'autorité. Vive autogéré de Tokyo, Alomé, Bamako, Santomé. On va globaliser le mouvement pour la liberté. Que les lions n'auront pas d'historiens, les histoires de chasse glorifieront les chasseurs. Le peuple noir ne se souvient de rien, on écrase sa mémoire sur le compresseur. Gimme de mojo, gimme de motif, j'ai déjà le motif. Gimme some room dans le dojo, j'entraîne mes punchs sur un 5 en plus de CFA. Maudit soit les maîtres, et fuck tous ceux qui laissent, suivent à la lettre. Comme Zinga, je choque la pièce qui va se mettre à genoux pour que j'en fasse mon siège. Résistant comme du carbine, réveille les troupes comme ça mourit depuis la cabine. Crache mes rimes dans la carabine pour cliquer à ta bam toute ma science avec flow caractime. Oh, toujours en alerte, quand derrière ça a l'air. Fardeau ne s'allège pas. On nous méprise depuis des siècles. N'utilise pas ta tête comme tout singe qui se respecte. Y'a longtemps que le respect est décédé. Force à tous mes négus pas prêts. Décédé, sauce gale, j'allumerai le feu. Man, c'est décidé, j'suis bouillante. J'ai boulette, pas l'envie de me soumettre. Oh,
c'est la résistance.
Resisting, they shoot our eyes out, but we still got vision. Nothing can move us, cause we on a mission to put the whole system into a submission.
Uno, tres. Uno, dos, escucha el mensaje sacando la voz. Tiro mi rima, luchando por vida, luchando de dima, luchando la esquina. Stand up, stand down, my fist go pow pow. Vamos capucho, estamos en la lucha, fight back, right now.
Tausend Stimmen, ein Protest, ein Traum, ein Ziel, weltweit vernetzt. Die Faustgewalt bereit zu kämpfen.
Résistance.
Wir fighten jetzt.
On a trop hésité, maintenant faut s'opposer contre l'autorité. Vive autogéré de Tokyo, Alomé, Bamako, Santomé. On va globaliser le mouvement pour la liberté.
Liberté.
Et nous poursuivons l'écoute de la réunion publique du collectif Ne tournons pas la page, qui se tenait ce 1er septembre 2023 pour poursuivre la lutte contre la réforme des retraites.
Les gens qui sont en distanciel, est-ce que vous avez des questions ou des remarques à faire ?
Je voulais compléter ce que tu as dit sur le bac, parce que en fait, ce qui peut nous renforcer, c'est que le bac, le pouvoir a été obligé de reculer. Ils l'ont reporté, ils viennent reporter les épreuves de spécialité en juin. Et donc, un succès même partiel comme ça, parce que si on regarde bien, tant qu'il y a Parcoursup, le fait de faire le bac à nouveau, les épreuves de spécialité en juin, ça veut dire qu'il n'y aura plus que le contrôle continu avec toutes les inégalités que ça représente. Donc, une fois que le coin est enfoncé, il faut obtenir le final compte à nouveau pour l'orientation dans le supérieur. Et c'est pour dire que quand la base se remue, et c'est vraiment la base qui s'est remuée sur le bac, hein, ça a vraiment été génial, les mobilisations à ce niveau, notamment sur Paris, Versailles, Créteil, ça a cartonné. Et quand les syndicats soutiennent, eh ben, ça fonctionne pas trop mal. Et tôt ou tard, ils sont obligés de canner. C'est ce qu'il faudrait leur visser dans le crâne de manière à ce que ça soit toujours comme ça, quoi.
Olivier, tu peux nous raconter comment ça se passe les luttes dans la FSU, sur la question des retraites ?
Sur la question des retraites, ils en sont au même niveau que tous les autres. C'est-à-dire qu'ils ont tourné la page. Ils ont tourné la page. Ils disent au dernier bureau national, ils ont dit on va continuer sur les retraites parce que il faut voir les quelques avantages qu'on a eus. Pour eux, l'obsession, c'est la cessation progressive d'activité. Puisqu'ils ont obtenu un truc bidon qui n'a rien à voir avec ce qui existait auparavant et qui était intéressant. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent partir 2 ans plus tôt, c'est-à-dire à l'équivalent de ce qui serait parti s'il n'y avait pas eu la réforme Macron. Mais pour autant, ils ont un salaire partiel. Et ensuite, c'est assez merdique comme construction. Et donc, ils incitent les gens à demander cette cessation progressive d'activité de manière à voir si ça peut fonctionner. Et ils ont une autre préoccupation sur les retraites, et ça, on doit l'avoir aussi, c'est que la réforme, ça commence à partir de 61, de 3 mois en 3 mois, hein, l'application de la réforme. Et il se trouve que les femmes, pendant une dizaine d'années, les femmes à qui vont être retirées les priorités enfants, vont se retrouver avec une pension bien inférieure à ce qu'elles auraient eu avant la réforme. S'il n'y a pas une remise au moins partielle ou progressive des éléments pour enfants, ça va être une catastrophe. Donc, c'est les deux seuls éléments qu'ils ont abordés sur les retraites.
Ok, merci Olivier. Nadia, est-ce que tu as un mot à dire ?
Moi, ce qui me met un peu hors de moi, c'est que les grandes centrales syndicales... Donc, moi, je ne suis pas syndiquée. J'étais syndiquée à Sud. Je suis partie pour des raisons qui me sont propres. Et donc, là, ce qui me gêne, c'est que donc Sophie Binet et tout ça, qui exhortent les gens à se syndiquer. Et le problème, c'est que quand on voit leur attitude face, justement, au gouvernement où on essaye d'avoir, de récolter quelques miettes, et en fin de compte, les organisations syndicales, enfin, celles qui ont le vent en poupe, hein, les plus connues, moi, je vois autour de moi, les gens me disent « Oui, mais bon, en gros, ils ne font pas grand-chose. » C'est vrai qu'ils se sont un peu mis en sourdine. Donc, moi, j'aimerais savoir la fameuse « Ne tournons pas la page ». Je sais que vous avez envoyé donc un courrier, justement, aux organisations syndicales qui, pour l'instant, si j'ai bien compris, vous snobent. Et quelle sera la suite? Parce que moi, bon, je ne suis pas syndiquée, j'avoue que entre deux syndicats, mon cœur balance. Mais c'est bien gentil de demander aux gens de se syndiquer pour faire la force des syndicats, quand derrière, on reste sur un goût amer où il y a eu des millions de personnes dans la rue. Et là, les Sophie Binet, enfin, je ne suis pas à la lettre tout ce que disent les syndicats, mais on est dans, oui, en effet, on va voir ce qu'on peut récolter. Bon, bah, la retraite, c'est acté. Et moi, ça me gêne parce que je trouve que les syndicats ne sont pas assez belliqueux. Voilà.
On est tout à fait d'accord. Est-ce que la deuxième Nadia, tu veux prendre la parole aussi ?
Oui, bonsoir. J'avais donc lu votre compte rendu de votre université d'été le constat effectivement est dramatique et je pense comme Nadia que c'est très dommageable là de voir l'attitude des syndicats, d'autant que tout le monde a perçu hein, que l'intersyndicale jouait la montre à la fin et n'a pas donné l'impulsion qu'il fallait alors que les mobilisations étaient assez importantes. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la suite. Comment on fait pour la suite? Comment on fait pour mobiliser les gens? Comment on fait pour garder l'envie de lutter alors qu'effectivement, on a une intersyndicale qui joue un double jeu? Et moi, je suis syndicat EFO, EFO 94, et la politique dont vous parlez, moi, je l'ai perçue chez EFO depuis longtemps. Hein. Globalement, chez EFO, on nous demande d'avancer un petit peu pour faire des esbroufs et pour que, finalement, lors des élections professionnelles, ce syndicat-là puisse avoir plus de voix. Mais globalement, à EFO 94, ce qui est géré, c'est vraiment les questions individuelles qui sont défendues lors des commissions et lors des problèmes personnels que les enseignants rencontrent dans leur circonscription. Voilà. À l'échelle nationale, il n'y a pas tellement de dynamisme. Et moi, je me dis, on a encore 4 ans avec Macron, il a le temps de dézinguer non seulement l'école. Effectivement, alors pardon Olivier, pour moi, le recul de Macron sur le bac, je ne crois pas que ce soit notre victoire, je crois que c'est juste qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas gérable. J'ai pas l'impression qu'on a un gouvernement qui est capable d'écouter quoi que ce soit de la rue, hein. Ni des professionnels, ni de personnes. Non, ce qui reste, c'est que la lutte, et je sais pas comment on va mobiliser les gens. Mais bon, peut-être que je me trompe dans mon analyse. Hein, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire.
Graziella ?
Enfin, nous, au niveau des. Enfin, en tout cas, à mon niveau, dans mon activité, sur mon lieu de travail, au niveau des industries électriques et gazières, moi, j'ai l'impression que la page est tournée, hein, on n'entend plus parler. Il se passe plus rien, c'est le calme plat. Donc voilà. Chez nous, c'est la fin de notre régime particulier là depuis le 1er septembre. Donc tous les nouveaux embauchés ont plus droit à ce régime particulier des retraites qu'on avait jusqu'à maintenant. Voilà. Et bon, je sais pas les gens. J'ai l'impression que ça leur fait ni chaud ni froid. Quoi que c'est passé, c'est la page est tournée et voilà quoi. Donc, moi, je me trompe peut-être, hein, mais en tout cas, c'est le ressentiment que j'ai. Alors, faut dire aussi que. Il y a de moins en moins d'embauches aussi, comme un peu partout. Il y a beaucoup de prestataires, de personnes intérimaires, donc qui se sentent aussi moins impliqués, moins concernés. Voilà. C'est un peu, et comme disait Nadia, voilà, comment remotiver les gens? Chez nous, c'est vrai que moi j'ai un peu de mal, quoi. Je sais pas comment faire, comment m'y prendre.
Ben oui, c'est la question centrale, ouais.
Après, mais je pense que, comme on disait l'autre fois, moi, je pense que quand même la braise est là, quoi. Je pense que ça peut repartir, malgré tout.
Est-ce que tu es syndiqué, Graziella, nous demande la salle.
Non. Plus maintenant. Non, j'ai été pendant longtemps et voilà, quoi. J'étais déçue, donc voilà, plus maintenant. Et, bah,
okay.
Et j'agis selon ma conscience et mes convictions, et voilà.
Fabio, un petit retour de terrain aussi.
Ouais, bah alors, bah moi c'est un peu comme Graziella, hein, c'est qu'une fois que tous les mouvements ont été faits chez nous, bah ils se sont dit ça sert plus à rien de faire la grève, concrètement, vu qu'on n'est plus écouté, vu qu'on a, même malgré tout le bordel qu'on a foutu dans Paris, bah ça a pas fait grand chose, ça a rien à faire avancer. Donc vu qu'on a plus, on va dire, on est plus écouté du tout, donc ça a démoralisé beaucoup de personnes. Et même chez nous, il y en a beaucoup qui se disent, bah en fait, même se mettre en grève, ça sert plus à grand chose, quoi. Donc, même si on relance un mouvement, pas sûr que ça suive à fond, quoi. Il y aura toujours une petite partie un peu, on va dire, anarchiste, révolutionnaire qui se mettra en grève, mais ça sera pas du tout la majorité de l'établissement. Donc, après, la question, voilà, c'est comment faire pour essayer de resolidariser tout le monde et refaire des mouvements comme ça.
Ok, Nico, ce serait bien que tu nous racontes un peu un exemple d'entrave. Syndical dans la lutte de cette année là.
Ouais, bah moi c'est délicat parce que j'ai été très peu salarié dans ma vie et là je le suis pas et j'ai jamais été syndiqué. Moi je me considère plus partie du mouvement, la mouvance autonome quoi, on va dire. Mais bon, à Frontignan il y a un dépôt d'essence donc qu'on a bloqué à plusieurs fois quoi. Et on était, bah, il y avait des autonomes, puis il y avait des syndicats aussi, mais en fait, à 7, là, c'est la CGT qui cadenasse tout, quoi. C'est vraiment, elle règne en maître. Donc c'est assez difficile de faire des ponts. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques syndicalistes de base qui en veulent un peu à leur centrale, mais en même temps, ils ont du mal à dire ce qu'ils pensent, quoi. Mais bon, on est en train de faire quelques liens. Donc, moi, je viens plus en touriste parce que c'est un milieu que je connais pas du tout, les milieux syndiqués, quoi. Et que c'est plus pour me former là-dessus et puis, bah, pour voir, espérer que le mouvement ressurgisse. Et puis aussi pour discuter avec les copains, les copines qui elles et eux sont syndiqués. Je leur ai vachement parlé de votre mouvement. Mmh. Parce que je trouvais que bah, c'est intéressant, parce qu'ils se retrouvent un peu comme ça, coincés entre des autonomes qui leur disent « Ah ouais, mais les centrales, c'est tous des pourris ». Et puis bon, en même temps, bon, on voit bien que quand même être dans une boîte au sein d'un syndicat, ça peut être utile, voilà. Donc voilà ce que je peux se dire. Donc, je suis plus un touriste, quoi. Je vais pas vous... En plus, je débarque dans la région, je suis pas vraiment de Frontignan. Moi, je suis plus à l'origine de la région parisienne, et donc je découvre tout ça, quoi.
Je vais faire un premier tour de réponses. Nadia, tu demandais quelles ont été les réponses à nos lettres. Donc nous, en fait, on a envoyé par mail, Twitter et formulaire officiel le texte initial et la liste des signataires le 30 juin. Évidemment, on n'a eu aucune réponse numérique par ce biais-là, quoi. Et donc du coup, on dit bon, on allait voir en chair et en os nos dirigeants. Donc du coup, on les a vus là vendredi. C'était il y a une semaine. On comptait le 23, 24, je sais plus quoi. Donc vendredi, on leur a remis en main propre, donc aux trois zozo là. Donc le texte numéro 1, le texte d'actualité sur effectivement pourquoi est-ce qu'il faut rejoindre la campagne aujourd'hui. Ne tournons pas la page. Et donc le cahier avec toutes les signatures. Donc du coup, donc voilà, c'est on a vu Sophie Binet, on a discuté un peu avec elle. Bon, j'ai rendu compte de l'échange dans le trajet, je vais pas revenir dessus, quoi. Test pareil, et la camarade de Solidaire, idem, quoi. Donc bref, donc eux, ce qu'ils font physiquement, c'est qu'ils prennent le truc, ils disent oui. Bon, après ils te disent que ils ont fait de leur mieux. Enfin, en fait, notre campagne n'a aucun sens puisque leur boulot est parfait de toute façon. Donc voilà, la réponse c'est celle-là, quoi. Bon, après voilà, est-ce que ce qu'on fait, ça sert à quelque chose? Je pense que oui, parce que effectivement, tous les retours que j'ai en fait, il y a eu plein de réunions et de congrès qui ont lieu depuis la fin du conflit sur les retraites. Ceux qui voudront en témoigner en témoigneront, mais vous avez vu le bordel qui a a eu lieu lors du congrès de la CGT de cette année, où quand même le, pour la première fois, le, comment on appelle, le bilan de la direction sortante de Martinez n'a pas été voté, n'a pas eu une majorité. C'est la première fois en 120 ans que le, une direction se fait rejeter par ses bases. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc le, la personne qui était désignée par Martinez, Marie Buisson, n'a pas pu être élue à la direction de, du syndicat. Donc c'est une, un peu une outsider de la direction qui a été élue, qui est Sophie Binet, qui était en tout cas pas la personne qui était prévue au départ. Parce qu'en fait, dans la base, ça a gueulé en disant, mais effectivement, ça fait... deux mandats de Martinez ou deux mandats de merde où on perd, quoi. Donc, notamment par cette stratégie de, d'intersyndicale, donc d'unité des directions, mais qui vont effectivement vers la défaite, quoi. Donc ça, c'est rejeté par les bases de la CGT. Donc les bases de la CGT sont pas amorphes et passives face à ces conflits qui ont lieu, quoi. Cette petite décapitation qui a eu lieu à la tête de la CGT, il y a eu d'autres congrès CGT dans d'autres fédérations ou dans d'autres boîtes et dans d'autres secteurs où là aussi, il y a des bureaucrates qui ont fait de la merde sur le terrain qui sont fait virer. Donc en fait, indépendamment de nous, quoi. Donc c'est-à-dire qu'en fait, partout où il y a eu des comités de lutte, des grèves dures, etc., et partout où les bureaucrates ont essayé de freiner, en fait, partout il y a eu des conflits et il y a des endroits où ça, la lutte n'a pas marché, mais il y a des endroits où effectivement les travailleurs combatifs ont pu prendre la direction de leur syndicat, quoi. Donc ça montre qu'effectivement, il y a aussi un mécontentement dans les syndicats pour dire, mais c'est pas possible qu'on nous dise à la fois on tourne pas la page et en même temps, enfin, ou au contraire, les gars on y va à fond et en même temps on nous casse notre grève, c'est impossible. Donc ça, il y a eu des retours de bâton très durs pour les bureaucrates, quoi. Autre façon de dire les choses, je pense que des comités comme il y a eu à Issy-les-Moulineaux de soutien aux grèves, nous on a réussi à se maintenir à Issy-les-Moulineaux et maintenant on diffuse sur toute la région parisienne, on a des luttes, on a été à toutes les manifestations, etc. Je pense que des collectifs comme ça, il y en a plein. Et témoignage de Nico, c'est, il nous dit ça, Nico, il nous dit effectivement, nous à Frontignan, on a un collectif avec des gens qui sont pas syndiqués, des gens syndiqués, on veut se battre, on comprend pas la situation, ou on comprend mais on se sent impuissant. Et en fait, je pense que partout en France, il y a des collectifs qui existent. J'ai rencontré en manifestation le collectif des usagers du 13e arrondissement de Paris qui veulent effectivement être tenus au courant de ce qu'on fait. On a des camarades dans toute la France qui répercutent la campagne. Donc dans mes propositions concrètes, nous, ce qu'on a à faire, c'est effectivement aller chercher tous ces collectifs de gilets jaunes, d'interorganisations, intersyndicales de base, de collectifs autonomes, etc. Tous ces gens qui ont participé à la lutte des retraites, qui sont orphelins aujourd'hui, et il faut qu'on aille les contacter pour dire on existe, et peut-être il y a des collectifs comme nous qui font la même chose aujourd'hui, quoi. Donc, je pense qu'il faut aller à la recherche de ces personnes-là, quoi. Du coup, effectivement, comment mobiliser, comment est-ce qu'on remotive les gens, est-ce que faire grève, ça sert à quelque chose? Quand tu es au pire du conflit, Macron, il a reculé. Le patronat français, le MEDEF, certaines sections du local disaient, ça suffit, il faut que Macron retire sa loi. Le patronat de l'hôtellerie-restauration parisien, mais national aussi, dit, on a 30% de manque à gagner sur la saison à cause de ces connards de déboueurs et d'incinérateurs qui foutent des poubelles partout, quoi. Donc voilà. Donc quand c'était un peu chaud, qu'il y avait des 5 secteurs qui étaient en grève reconductible, il y a une partie du patronat qui commence à dire, là, il faudrait peut-être qu'on arrête et qu'on retire la loi, quoi. Comme on n'a pas gagné, on a l'impression que tout ça a été inutile. Mais non, effectivement, c'est plutôt voir que si la lutte avait été plus forte, et donc si les directions syndicales nationales avaient été plus faibles, on aurait pu effectivement aller beaucoup plus loin dans le combat. Donc la question, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, en fait, le combat a commencé, il faut qu'on se réapproprie nos syndicats. On ne peut pas faire comme si les syndicats n'existaient pas, puisqu'en fait, ils interviennent dans nos luttes pour les freiner ou les casser, donc on ne peut pas les ignorer. Mais par contre, c'est quand même un outil mis en place par les travailleurs, les syndicats, et donc on a toute notre légitimité pour nous prendre toute notre place dans ces syndicats-là, et effectivement, orienter avec une autre politique. Les syndicats, un de vous l'a dit, nos syndicats ne sont pas assez belliqueux, quoi. Mais des gens belliqueux dans les syndicats, il y en a. Donc effectivement, il faut que ces gens-là ils aient plus de place, mais en s'appuyant sur des collègues, d'autres syndiqués, etc., quoi. Donc je vais pas vous vendre qu'à nous 10, on va relancer un mouvement de grève nationale dur dans les 10 jours qui viennent, quoi. Ça serait un peu se mentir. Par contre, nous, ce qu'on peut faire, c'est effectivement continuer de réseauter et de reprendre des forces au niveau national. Donc il y a ça. Dans les bonnes nouvelles, quand même, donc il y a quand même des syndicats, des sections complètes qui nous rejoignent. Donc il y a la CFDT Bois et Construction Île-de-France qui a signé l'appel en tant que section syndicale. Donc, c'est extrêmement important. On a les copains du SDAS, donc c'est l'action sociale de Rennes, FO, qui nous a rejoint et qui répercute au niveau de tout FO 35, mais qui là s'est engagé le copain à dire je vais contacter toutes les sections dissidentes de FO de France pour l'envoyer le tract, etc. Et le texte pour qu'ils vous rejoignent. Donc alors, on a encore un boulot à faire de... En fait, on n'est pas au maximum de nos capacités aujourd'hui. On n'a pas rencontré tout le monde. Tout le monde n'a pas lu notre texte. Donc nous, on a un boulot de faire connaissance et se faire connaître au niveau le plus possible. Donc il y a ça à faire comme boulot. Et voilà. Et il y a l'actualité quand même. Il y a l'actualité là, ce mois-ci, sur l'AGIRC Arco. J'espère qu'il y aura une couverture médiatique sur la question de l'AGIRC Arco, même si c'est un sujet un peu pointu. Mais nous, effectivement, on peut faire des actions pour visibiliser cette question-là, et les communiquer et les diffuser. Donc on peut faire un boulot, nous, de vulgarisation et de formation sur la question de l'AGIRC Arco et de mobilisation pour dire, bah, tu vois, là, ils sont à négocier les 65 milliards de l'AGIRC, donc il y a un truc à faire là-dessus. Donc voilà, là, je pense que pendant un mois et demi, les retraites, il va encore être question dans l'actualité. Enfin, je veux dire que le Parisien titre aujourd'hui sur les retraites, qu'il y a trois jours, France 5 sort un reportage sur les retraites. Donc là, on est encore dans c'est la rentrée. Moi, dans mon syndicat, on n'a pas fait de réunion de rentrée encore. Donc voilà, les choses sont pas... Donc oui, les collègues en parlent pas. Oui, les tracts n'existent pas, c'est dommage. Mais on nous dit qu'il n'y a pas des sections qui vont reprendre le sujet. Un exemple, FO enseignant, dans son tract de rentrée, a fait un paragraphe pour dire « on lâche pas sur l'action des retraites ». Alors, ça ne veut pas dire que FO enseignant se bat contre la réforme des retraites, mais ils sont quand même obligés de le mentionner dans leur tract de rentrée, quoi. Donc, vous voyez, c'est un peu, on est quand même dans ce truc où c'est, comme tu disais, Graziella, les braises sont encore là, quoi. Donc, il faut quand même qu'on nous, on... De toute façon, on n'a pas d'autre choix que de se battre, donc on va continuer de se battre. Donc oui, je pense qu'il faut discuter du bilan. C'est ça qu'il faut faire avec nos collègues. Il faut effectivement, c'est la grève marche. La question, c'est qu'il faut la grève générale maintenant. Il y a le problème des directions. Effectivement, c'est pas tous pourris de haut en bas. C'est qu'il y a des bases, il y a des directions. Il y a des militants honnêtes dans les bases. Il faut les appuyer, ces militants-là. Et moi, dans mes propositions, je vous le dis tout de suite. Moi, je vous invite tous à vous syndiquer. Que vous soyez retraité, il y a des syndicats de retraités qui existent, rejoignez-les. Vous êtes sans emploi ou je sais pas quoi, allez rejoindre des syndicats de chômeurs ou les unions locales dans votre coin. Enfin, voilà, il faut aller toquer à la porte des syndicats et que les gens combatifs entrent dans les syndicats. Et oui, et faire du syndicalisme ou du militantisme par le biais syndical, entre autres, quoi. Mais il faut y aller dans les syndicats. Ils sont à nous, les syndicats. Hein. Les unions locales sont à nous. Donc, il faut qu'on aide dans toutes ces structures-là. Voilà, je pense que c'est une... Donc voilà, donc il y a un boulot là, de discuter avec les collègues, convaincre, faire le bilan et continuer de mobiliser, quoi.
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine, sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canassul, à Toulouse, et bien évidemment, Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.